Alors j'aimerais prendre avec vous ce matin l'évangile de Jean, chapitre 9, et on va lire tout le chapitre. Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble », et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui l'en concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » On va s'incliner dans la prière. Père, merci encore parce que de toute ta vie sur terre, de tout ce que tu as vécu, de toutes les personnes que tu as rencontrées, à qui tu t'es adressé, eh bien, tu nous en donnes le récit, Seigneur, et tu nous nourris par ces choses, Seigneur. Nous pouvons tirer notre pain de chaque événement que tu as vécu, que tu as bien voulu nous donner au travers de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous enseignes, tu nous parles, Seigneur, tu nous montres des vérités sur ta personne, sur le ciel, sur l'éternité, aussi des vérités sur nous-mêmes, Seigneur, et tu éclaires notre cœur. Père, nous te remercions parce que tu as dit à travers de ton Fils, je suis la lumière du monde et tu es la lumière véritablement qui nous éclaire. Père, veuille bénir, s'il te plaît, ta parole, bénir ce temps ensemble et éclaire nos yeux, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de Jean, c'est merveilleux de voir notre Seigneur qui va s'attarder avec certaines personnes. Par exemple, en Jean 3, il y a Nicodème, et bien il va s'attarder avec Nicodème de nuit. Il va s'attarder au chapitre 4 au puits de Sichar avec la Samaritaine, prendre du temps avec elle. Et là, eh bien c'est avec cet aveugle de naissance. Verset 1, vous lisez, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ce qui est touchant ici, c'est que cet aveugle, il ne faisait pas de bruit. Il était tranquille, silencieux, il était dans son coin. Ce n'était pas comme Bartimée. Bartimée, il est sur le chemin. « Oh, fils de David, aie pitié de moi !» Non, lui, il est tranquille, là, il ne dit rien, il est dans son coin, il est discret, silencieux, mais on lit que Jésus le vit. C'est beau, quoi. En passant. Vous savez, nous, des fois, on passe, et puis on voit bien, mais on ne s'arrête pas. Et lui, il voit et il s'arrête. C'est bon de savoir que Dieu voit celui qui pourtant est invisible. Dieu a compassion, il aime, il va prêter attention à celui qui est dans un état de faiblesse, au plus petit. Jésus le vit. Et c'est alors que ses disciples en profitent pour lui poser une question. Verset 2, « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Alors, cette question, elle fait suite à une pensée qui était courante pour les Juifs à l'époque. Ils pensaient que toute infirmité, toute maladie, tout problème de santé, eh bien, c'était le résultat d'un péché. Donc, ils avaient même listé, tel péché, eh bien, on peut avoir telle maladie. Ils avaient fait des choses comme cela. Et donc, soit ses parents avaient péché, soit c'était lui-même qui avait péché pour qu'il soit né aveugle. Alors c'est vrai que le péché d'Adam et Ève a engendré le péché en nous, hein, nous naissons pécheurs, et puis bien après est venu toutes les maladies et tous les problèmes de santé. Mais c'est faux de vouloir lier chaque maladie que vous avez à un péché. Hein, et vous dire, ah ben, si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai pas écouté le Seigneur ou j'ai désobéi. C'est faux de vouloir lier toute chose. C'est vrai que Dieu parfois juge par la maladie, hein, ça arrive, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Alors, c'est vrai aussi quand vous faites des excès, eh ben là, vous payez les conséquences aussi des excès que vous faites. Hein. Mais c'est faux de vouloir tout lier, et c'est pas parce qu'on est malade que forcément on a péché un peu avant. Alors pour les disciples, il y avait deux hypothèses possibles. Premièrement, en pensant que les parents de l'aveugle avaient dû pécher, les disciples se réfèrent à un commandement de l'Exode. Donc il est dit dans l'Exode, chapitre 20, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Et donc, il se disait, eh bien, peut-être les parents ont péché, et puis, ben voilà, ça retombe sur les enfants et jusqu'aux générations suivantes. Donc, c'est la première hypothèse qu'ils posent. Deuxième hypothèse, ils se disent, l'aveugle a péché lui-même, c'est assez curieux, ils disent, il a péché avant sa naissance. Alors, comment c'est possible? Comment on peut pécher avant la naissance? Alors, c'est intéressant parce que les Juifs pensait qu'il était possible de pécher juste avant la naissance. À quoi il se référait? En fait, il se référait à Jacob et Ésaü dans le ventre de leur mère, qui déjà commençait. Alors il se disait, le péché a déjà lieu avant la naissance. Vous voyez un peu le raisonnement. Mais si vous pensez à ça, vous pouvez aussi penser à un autre verset où l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit « Les enfants n'étaient pas encore nés, qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, donc Jacob et Ésaü, afin que le dessein de Dieu subsiste. » Donc ça veut dire ils n'avaient pas fait de mal, donc ils n'avaient pas péché dans le ventre de la mère, et donc leur raisonnement ne tenait pas. Maintenant, ce texte de la Bible est aussi intéressant dans notre 21e siècle à cause du monde qui veut croire dans la transmigration des âmes, c'est-à-dire la réincarnation. Et donc, est-ce que, il aurait péché dans une vie antérieure, hein? Jésus, là, il répond, il répond. Non. Non à toutes ces questions qui suscitent l'infirmité à l'aveugle. La réponse se veut claire, elle est sans ambiguïté. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ça n'a rien à voir. Ne regardez pas aux parents, ne regardez pas à cet homme, ça n'a rien à voir. C'est pour que, au contraire, la gloire de Dieu soit manifestée, et elle va se manifester ici au travers de la guérison. Alors, verset 4, il faut que je fasse, 4 et 5, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, tandis qu'il est jour, il est en train de faire référence au temps où il est sur terre. Il est sur terre, il peut travailler, donc il faut qu'il fasse les œuvres de Dieu. La nuit vient, ça fait référence à sa mort, où il partira, et personne ne peut travailler ensuite. Et durant ces années où il exerçait son ministère sur la terre, Jésus voulait saisir chaque opportunité de conduire des hommes des ténèbres à la lumière. Et c'est intéressant, dans toute cette histoire, de voir la progression, notamment d'abord de cet aveugle, qui va petit à petit parvenir à une pleine clarté et voir, d'une manière spirituelle, voir vraiment qui est Jésus-Christ. Et il y a une vérité spirituelle derrière tout ça. L'aveugle, il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres depuis toujours, puisqu'il était né aveugle. Ses yeux ne laissaient pas passer la lumière depuis qu'il était venu au monde. Et là, on a une image de la condition humaine en général. Son aveuglement physique, représente un aveuglement spirituel. Nous naissons aveugles. Nous naissons pécheurs. Nous naissons donc aveugles de naissance. On est loin de Dieu, on est coupé de Dieu, on n'a pas de relation avec Dieu. Certains disent parfois, moi je connais Dieu depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Non, on est séparé de Dieu d'entrée, quand on entre dans le monde. Et Jésus va faire quelque chose de significatif. Il va appliquer de la boue sur les yeux de l'aveugle. Alors déjà l'aveugle ne voyait rien, et Jésus va lui boucher encore davantage la vue, puisqu'il va faire de la boue avec sa salive et va l'appliquer sur ses yeux. Alors, quelle est la différence entre avant et après? C'est que maintenant, l'aveugle sent la nécessité de se laver. Il se dit, imaginez, vous avez de la boue sur les yeux, c'est pas agréable, vous avez envie de vous laver. Eh bien, lui, il ressent cette nécessité de se laver, il se sent sale parce qu'il a cette boue sur les yeux. Et donc, il va obéir, il va aller à la réserve d'eau de Siloé, et là il va plonger ses mains dans l'eau et il va se laver la boue. On est tous des aveugles, mais on n'en a pas réellement conscience. Les hommes n'en ont pas forcément conscience. On est aveugle et on n'éprouve pas forcément le besoin d'aller nous laver à la réserve d'eau là-bas, de Siloé. Alors Dieu, il va venir appliquer de la boue sur nos yeux pour qu'on éprouve ce besoin. Et comment il le fait? Il le fait par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc l'Esprit de Dieu va venir nous convaincre que nous sommes sales, que nous sommes des pécheurs. Il vient appliquer cela sur notre cœur pour nous faire comprendre que nous ne voyons rien et que nous sommes dans les ténèbres. Il faut prendre conscience qu'on a besoin de se laver. Il est dit, et c'était ce verset qui était affiché tout à l'heure, que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des coupables. Ça ne signifie pas que sur la terre, il y a des réels justes, et puis il y a des coupables, et puis Jésus dit, les justes, c'est bon, ils sont justes, je vais m'occuper des coupables. C'est pas qu'il y a des réels justes. La Bible dit au contraire qu'il n'y a point de justes, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc il n'y a pas de justes, ça n'existe pas, les justes. Mais le problème, c'est que il y a des personnes qui se sentent justes. Elles se disent, quand même, moi, j'ai pas péché, j'ai pas fait grand-chose, je ne ferai pas de mal à une mouche. Elles se sentent justes à l'intérieur. Mais la réalité, c'est non, il n'y a pas de juste. Il n'y a que des pécheurs sur la terre. Et on peut se poser la question, mais comment on se regarde soi-même? Est-ce que vous vous regardez comme juste ou vous vous regardez comme pécheur? Peut-être Jésus doit appliquer de la boue sur vos yeux parce que vous ne voyez pas votre péché. Pour que vous compreniez, mais en fait, je ne suis peut-être pas si juste que ça. Dieu, parfois, doit agir sur notre cœur et nous montrer que nous sommes sales pour qu'on éprouve le besoin d'aller se purifier, d'aller se laver. Mais pas n'importe où, à la réserve de Siloé. En fait, c'est la réserve de l'envoyé. L'envoyé, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Aller se laver à la fontaine de Jésus-Christ. Jésus est vraiment celui qui a été envoyé par Dieu spécifiquement pour venir nous sauver de nos péchés. Et il y a tout un enseignement que Jésus veut nous donner par ses actions, par ses paroles. Si vous prenez chaque scène des évangiles, à chaque fois il y a une signification, il y a une vérité spirituelle, quelque chose où il veut nous parler, nous enseigner sur lui-même, nous enseigner sur Dieu et nous enseigner aussi sur nous-mêmes. Jésus est venu mourir pour nos péchés et il veut nous purifier, il veut nous laver de nos péchés. Ensuite, il est ressuscité pour nous apporter sa vie. Il a triomphé sur la mort par la vie, en sorte que maintenant il nous offre la vie si nous nous repentons et si nous croyons en lui qui est mort pour nous. Mais il faut le réaliser, il faut le comprendre. Et reconnaître que nous sommes aveugles, sales, et comme ayant vraiment besoin d'une purification. Alors dans notre récit, on voit d'une part cet aveugle, aveugle-né, il ne voit rien du tout, il est dans les ténèbres, il le sait bien, et puis il y a cette boue qui ne fait qu'ajouter davantage de ténèbres, et lui fait éprouver ce besoin de se laver. Et puis, dans le texte, il y a d'autre part, d'autres personnes, c'est les Juifs, ici, et notamment les pharisiens, qui eux sont des voyants, ils voient, ils ont les yeux ouverts, ils voient, comme vous et moi, mais on va assister à quelque chose d'assez incroyable, c'est que plus on avance dans le récit, plus l'aveugle qui ne voit rien se met à voir petit à petit, et il voit de mieux en mieux, et plus ceux qui ont des yeux et qui voient, descendent dans les ténèbres et voient de moins en moins. Et à la fin du récit, ils sont complètement dans les ténèbres. Alors d'abord, regardez ce que dit l'aveugle. On va d'abord lui poser une question, verset 10. Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Donc l'aveugle parle tout d'abord de Jésus. Il dit « l'homme qu'on appelle Jésus ». C'est flou, c'est vague. On peut dire c'est la connaissance qu'il a de Jésus au commencement. Voilà, je connais son nom, il s'appelle Jésus. En général, c'est comme ça qu'on perçoit le Seigneur au commencement. Au départ, c'est qu'un homme qui s'appelle Jésus. Mais au fur et à mesure, la compréhension de cet aveugle va augmenter. Verset 17, il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Oh, on avance un palier supérieur. Il était qu'un homme qui s'appelait Jésus. Maintenant, il dit, « C'est un prophète. » Convaincu, c'est un prophète. Donc, Jésus a un ministère qu'il a reçu, une mission reçue par Dieu. Verset 31. L'homme devenu voyant dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Ah! Donc là, il voit quelqu'un qui est honoré de Dieu, quelqu'un qui est en train de faire sa volonté, et il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est intéressant, hein? Connaissance un peu plus grande. Verset 33, il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc là, il sous-entend qu'il vient de Dieu. Jésus est un prophète, Jésus fait la volonté de Dieu, Jésus vient de Dieu. Et puis, dernier stade, dernière marche, verset 38, où l'homme guéri va le reconnaître comme plus qu'un prophète, il dit, verset 38, et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Et là, il dit, mais en fait, c'est Dieu, quoi. Il est Dieu lui-même, et il se prosterne devant Jésus-Christ. Et la révélation de la personne du Seigneur, c'est quelque chose de progressif, petit à petit. Au début, Dieu se révèle, se montre Jésus comme un homme, et puis après on comprend, mais en fait il est plus qu'un homme, hein, il parle, il dit des vérités, il y a des choses qui viennent de lui, et puis on avance, et puis jusqu'à une pleine lumière, et là, mais en fait il est Dieu incarné, Dieu venu sur terre. Où vous en êtes ce matin? Qui est Jésus pour vous dans votre vie? De quoi vous êtes intimement convaincu? Maintenant, on peut voir la progression des pharisiens dans leur compréhension de la personne de Jésus-Christ. Verset 16, on recule. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu ». Ça commence comme ça. Il n'est pas possible qu'il vienne de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Et vous savez, des fois, les gens, ils posent d'emblée comme postulat « Il ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu ». Voilà, il se ferme, hein. Il se ferme tout de suite. Verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà leur connaissance. Nous savons, c'est un pécheur. Et plus il s'avance dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Il n'avait rien fait d'irréprochable. Il était irréprochable. Vraiment. Il était saint, il était pur, mais eux disent, non, c'est un pécheur. Il est sale. Verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et si l'homme qui était autrefois aveugle termine en se prosternant, en adorant le Seigneur, comme le Dieu véritable, eux, ils font tout le contraire. En fait, ils terminent en le méprisant. Nous ne savons pas d'où il est. Voilà, il est rien, en fait. Il est rien. Quoiqu'il venait du ciel et qu'il était Dieu. Et vous savez, quand on choisit de ne pas voir, on ne veut pas reconnaître la vérité, eh bien, on finit par être aveugle. Et on descend, et on descend. Et après, ben, voilà. Complètement aveugle. Posons-nous la question, qui est Jésus-Christ pour nous? Où nous en sommes dans la compréhension de sa personne? Dieu veut nous amener à le connaître en esprit, en vérité, comme étant le Dieu vivant qui est venu, qui s'est offert pour nous. Et si nous avançons, il faut persévérer dans cette recherche et vouloir en savoir plus qui est Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on parvienne à ce stade ultime dans une pleine lumière. Ah oui, mais en fait, il est Dieu. Il est Dieu. Et il est digne de mon adoration. C'est intellectuellement qu'on sait que Jésus... que le nom de l'homme qui est venu il y a 2000 ans s'appelle Jésus. On dit, voilà, Jésus l'homme. C'est intellectuellement aussi qu'on peut se dire, ah mais quand même, il est prophète, hein. Il vient de Dieu peut-être. Hein. Nicodème dit lui-même à Jésus, donc Nicodème est tout seul la nuit avec Jésus, et il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc avec son raisonnement, il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Tout ce que tu fais, tu viens de Dieu. Tu es un prophète, qui tu es? Intellectuellement, pour lui, c'est clair. Il vient de Dieu. Mais pour arriver à la dernière marche de la connaissance de Jésus-Christ, pour voir Jésus comme étant Dieu, ben, il faut plus que l'intellect. Là, il faut passer un autre stade. Et c'est ce qui s'est passé pour cet aveugle-né. Regardez verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» crois-tu ? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu ? Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Je crois. Et l'élément supplémentaire qui nous amène à voir Dieu véritablement avec les yeux du cœur et à comprendre qu'il est véritablement Dieu, eh bien, c'est la foi. On peut se dire intellectuellement que Jésus est Dieu, mais ça sauve pas, vous savez. Il faut le vivre avec son âme, avec son cœur, avec une foi sincère et réelle. Et c'est ça qui nous conduit à une adoration de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et il n'y a que ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés qui voient vraiment Christ tel qu'il est. L'aveugle avait besoin de croire au Fils de Dieu. Est-ce que vous, vous croyez ? Est-ce que vous le reconnaissez vraiment ? Vous le voyez comme étant le Fils de Dieu ? Alors, versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Et là, c'est la conclusion de l'enseignement de Jésus. Il nous décrit le monde comme renfermant deux types de personnes. Il y a ceux qui ne voient point et ceux qui voient. Et Jésus veut éclairer ceux qui ne voient point et il veut rendre aveugles ceux qui voient. C'est ce qu'il dit. Et c'est un jugement. Un jugement. Soit une bénédiction, une grâce, soit c'est un jugement. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas supporter l'orgueil de l'homme. Et c'est l'orgueil qui va ressortir du cœur de tous ces accusateurs, on le sent dans la question. Quand à la fin il dit, « Et nous, est-ce qu'on est aveugles nous ? Est-ce qu'on ne voit pas nous ? Pourquoi tu oses dire que nous sommes aveugles ? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons la clé de la science ? Est-ce que nous sommes, c'est pas nous qui sommes les conducteurs des aveugles ? Les docteurs des ignorants, les maîtres des simples, c'est ce qu'ils pensaient en fait, tous ces pharisiens et ces juifs. Et il y a un péché qui est terrible, c'est de croire qu'on est au-dessus de Dieu et qu'on est plus sage que lui. Et que nous, on sait ce qu'il aurait fallu faire. C'est le cas lorsque quelqu'un se dit voyant, il voit bien, et en fait il est aveugle. Quand quelqu'un se dit qu'il est en bonne santé spirituelle, mais il est malade spirituellement. Quand quelqu'un se dit, moi je suis juste dans mon droit, et c'est un pécheur. Quand quelqu'un se dit, je suis riche, et il est pauvre, il est démuni spirituellement. Et c'est vrai que l'orgueil, ça plonge l'homme dans une suffisance qui ne lui fera jamais aller à la réserve de Siloé. C'est-à-dire aller à cette source pour être purifié. Tandis que l'humilité, va conduire l'aveugle à aller se laver avec simplicité à ce réservoir d'eau. Il s'est laissé faire quand Jésus lui a mis de la boue sur les yeux. Il n'a pas bougé. Il a accepté ensuite de faire ce que Jésus disait. Il reconnaissait implicitement son besoin de se laver. Et là, dans l'obéissance à la voix de Jésus, c'est-à-dire dans l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, l'aveugle a retrouvé la vue. Et c'est une transformation. Il devient un autre homme. Et on voit cette transformation dans la clarté, la simplicité, la franchise de son témoignage. Il va rendre témoignage, mais voilà, c'est comme ça. Sans peur. Et vous savez, à l'époque, il y avait toute une pression des Juifs, la communauté tout entière, c'était très fort. Quand vous regardez l'attitude des parents, les parents, ils tremblent. Regardez au verset 22 et 23, ces parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Et on voit les parents, ils veulent pas prendre position. Oh là là, débrouillez-vous avec notre fils, hein. Nous, on va pas s'impliquer. Et on peut le comprendre, parce que l'exclusion de la synagogue, ben, c'était terrible, terrible pour un juif de l'époque. Hein. C'était une opprobre qui tombait sur l'exclu. Il y a Alfred Kuhn qui rapporte qu'il y avait trois sortes d'excommunication synagogale. Donc on appelle ça comme ça. Donc je vous lis un peu ce qu'il dit. Il dit le premier degré, appelé niduge, excluait ceux qui en étaient l'objet de toute communication. On ne pouvait leur parler qu'à une distance de 2 mètres. Ils devaient revêtir des vêtements de deuil, n'avaient pas le droit de se raser pendant tout le temps que durait l'excommunication, généralement 30 jours pour ce premier degré. Ils ne pouvaient entrer au temple que par une porte spéciale, et s'ils mouraient, leurs proches n'avaient pas le droit de porter le deuil. Donc, première excommunication. Deuxième degré appelé Cherem, qui signifie anathème. Il était prononcé par au moins 10 membres de l'assemblée si l'exclu ne se repentait pas après 3 avertissements. On apportait une civière, représentant celle où le mort était emporté autrefois. On soufflait les lampes afin que la lumière divine ne souffle plus sur lui. Et l'on maudissait les 248 membres du pauvre pécheur. Cette excommunication comprenait la flagellation et l'interdiction de tout contact social, sauf avec les membres de sa famille. L'exclu n'était plus compté comme faisant partie du peuple d'Israël. Il ne pouvait acheter et vendre que les biens indispensables à la vie. Il n'avait plus le droit de participer aux cérémonies religieuses, ni au temple, ni à la synagogue. Troisième degré, appelé shamata, c'était la mort. Rejet de la communauté pour l'éternité. En principe, seul le Sanhédrin avait le droit de la prononcer. Alors quand vous connaissez tout cet arrière-plan, vous dites, mais alors, on comprend, hein. Ces parents-là, ils avaient peur, ils redoutaient cette exclusion de la synagogue. C'était vraiment très sévère. Et pourtant, rien n'arrête l'aveugle-né. Alors lui, comment il leur parle même, hein. Et vous voulez pas vous convertir aussi? C'est quand même assez fort. Même si c'est au prix d'une exclusion, peu importe, il dit au verset 11, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ça, c'est son témoignage. C'est simple, c'est clair, c'est voilà, précis. Hein. Vous pouvez ne pas croire en Jésus, mais pour moi, eh ben voilà comment ça s'est passé. Voilà. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Sans honte, sans crainte. Il va le redire. Verset 15. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Et puis il le redit encore au verset 25 de manière merveilleuse. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Qu'importe l'exclusion de la synagogue, hein, l'aveugle ne peut pas se taire sur ce qu'il vient de vivre. Et quand un chrétien est bien né de nouveau, hein, enfin, quand un homme naît de nouveau et devient chrétien, eh bien, il sait, mais je ne voyais pas, et maintenant je vois, je comprends, et c'est merveilleux, et on a envie de le partager. Même si ça coûte, même si ça coûte. C'est pour ça qu'on raconte, hein, et on dit, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que chacun est en mesure de dire, j'étais aveugle et maintenant ça y est, je vois vraiment clair. Ou bien nous pouvons dire, je suis aveugle, j'en ai conscience, mais je voudrais voir davantage. Je m'attends à Dieu pour qu'il éclaire mes yeux, pour qu'il me lave et que je vois encore plus. Dans ce récit, le Seigneur nous donne une promesse. Il dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voient point voient. C'est une promesse que vous pouvez saisir pour vous-même et dire, Seigneur, je sais que je ne vois pas tout, mais je veux voir. S'il te plaît, donne-moi davantage de lumière. Éclaire mon âme et Dieu vous exaucera.